Mais non, je l'ai un peu oublié ce match-là, c'est vrai. Mais c'est, oui, c'était important parce qu'on veut pas se tromper, donc on écrit tout, on est presque à la limite de lire. Moi, j'aime pas trop non plus systématiquement lire. J'aime bien quand même que ce soit quelque chose de fluide. Mais la première fois, oui, on fait attention à tous les détails.
Et comme tu le disais, encore aujourd'hui, il y a les petits papillons, c'est bien normal, c'est de la concentration en quelque sorte, et c'est mondialement écouté. Oui, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose sur les épaules, quoi.
On est en direct, hein, c'est du direct, on est en direct avec la foule. Et vous, une foule, qu'il y ait 1000, 15 000, 80 000, comme dans les grands stades,
c'est pareil, si vous
faites une petite erreur, ça fait du bruit. Si vous êtes dans le bon tempo, ça fait aussi du bruit, mais dans le bon sens. Et c'est ce qu'on recherche tous, donc il faut avoir le bon tempo, essayer d'éviter les erreurs. On en fait, tout le monde en fait, j'en ai fait, il y en a bien entendu qui en font. Donc c'est mais moins elle est grosse, moins elle fait de bruit, et il faut surtout éviter justement de bafouiller ou d'avoir des erreurs sur le palmarès d'un grand joueur. Si vous voyez ce que je veux dire.
Il a gagné 12 fois à Roland-Garros, c'est 14.
Voilà, c'est ça.
Ça peut s'entendre.
Voilà, ça peut faire du bruit. Mais dans le sens,
ça ne peut pas arriver.
Non.
Il y a plein de choses iconiques dans ce stade à Roland-Garros. Et finalement, au fil du temps, ta voix et tes annonces sont quelque part devenues une grande partie du paysage et de l'ambiance de Roland-Garros. Est-ce que tu imaginais évidemment que ce serait le cas?
C'est gentil. Non, moi je viens d'un...
Maintenant tu fais partie
du
paysage.
Oui, mais j'imaginais pas ça à ce moment-là. On essaie de faire quelque chose de propre. Je suis un peu le porte-parole de toute l'organisation. Il y a énormément de monde derrière, plus de 1000 personnes, vous le savez. Donc quand ces gens-là font un travail considérable, on a envie de faire quelque chose de très propre pour eux. Donc on se concentre surtout là-dessus. Et puis surtout pour que les joueurs soient mis en valeur. Parce que mon rôle, c'est aussi de mettre les joueurs en valeur. Donc, après, il y a une signature vocale, comme il y a des signatures visuelles, comme il y a des signatures de partout, hein, dans les grands événements. Oui, j'en suis, c'est vrai que j'en suis fier, c'est un vrai plaisir. Mais moi, je viens de l'athlétisme, je pensais rester un peu je pensais pas en faire un métier d'ailleurs. J'ai commencé à être présentateur, speaker sur les meetings d'athlétisme auxquels je participais pas.
Sport que tu as pratiqué.
Sport que j'ai pratiqué, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Mais j'ai eu plusieurs métiers, je pensais vraiment pas faire ce métier-là. Puis au fur et à mesure que je commençais à être demandé dans pas mal de sports, exactement. Donc voilà, donc j'en ai fait un métier.
Il a gagné le 100 mètres de la voix en athlétisme, qui est très très rare.
C'est ça.
Alors, pour se projeter, bon, on est plus...
Il y a toujours 2-2, hein, pour
oui, tout va bien.
Ouais. Et ça va pas bouger tout de suite, hein. On croit que ce match
peut durer,
effectivement.
Oui.
Tu as vu un petit peu tout le monde, présenter un petit peu tout le monde. Qui t'a étonné?
Toi, ce qui est aussi intéressant avec Marc, c'est qu'il les voit un petit peu avant.
On les voit avant. Alors, tu as raison, cette particularité d'être là-bas, moi ce que j'aime c'est ça, c'est être au contact. Je suis un privilégié, hein. Je suis vraiment au contact de ce que j'aime, c'est le sport. Et on dit souvent, le sport, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de physique et tout ça, mais il y a une partie mentale qui est importante. Et dans cette partie mentale, vous en avez certainement parlé, il y a effectivement l'entrée, la façon dont les joueurs se concentre. Un joueur qui vient pour la première fois sur le central, vous avez vu Gladiator, c'est quelqu'un qui rentre dans l'arène pour la première fois. Donc il y a un peu d'appréhension.
Alors justement, c'était
un peu de peur.
Ce qu'on disait tout à l'heure pour
Echeverry.
Est-ce que t'as vu s'il était,
bien sûr,
s'il tremblait un peu?
Il est rentré avec une sur le visage. C'est ça qui est fort, de la concentration, mais aussi j'ai lu un certain plaisir à être là.
Ah,
donc
même.
Il l'avait. Alors que certains joueurs sont peut-être plus tendus que lui, plutôt les joueuses d'ailleurs. Ça affecte beaucoup certaines joueuses qui sont assez tendues à leur entrée sur le court. Pas celles qui ont l'habitude d'y rentrer, qui ont une concentration assez marquée, mais celles et ceux qui viennent pour la première fois, on sent quelque chose de particulier. Et lui, j'ai senti un vrai plaisir à être là. Je pense que voilà, il avait envie d'être sur ce court.
Bah, c'est sûr que pour un Argentin, se retrouver sur le court central de Roland-Garros, c'est toujours un moment particulier. On ne peut pas, Marc, dissocier ton histoire ici à Roland-Garros de celle de Raphaël Nadal, parce que pour Raphaël Nadal, finalement, tu fais aussi partie de son environnement. Tu as été là pour toutes ses victoires, et mine de rien, vous avez développé une sorte de relation. Et je crois que si, par exemple, par hasard, tu avais été malade, ou etc., et s'il y avait eu un Roland-Garros où tu n'avais pas été là alors qu'il jouait, ça aurait peut-être été quelque chose d'un petit peu particulier pour lui, même si on sait que quand il y a des obstacles, il les surmonte.
Mais il était fort.
C'est quand même formidable d'avoir été le contemporain et toi, ouais, le speaker de cette histoire incroyable d'un joueur de tennis qui gagne 14 fois le même tournoi.
Le rapport que j'ai avec Nadal, il date pas de 2004, où il est venu jouer pour la première fois le tournoi, comme moi, pour la première fois non, il n'est pas joué 2004, il joue 2005, c'est vrai. Il date de 2003 en fait, mon rapport avec Nadal, et c'est pas bien sûr à Roland Garros qu'il n'a pas joué non plus 2003, puisqu'il a aussi blessé les deux premières fois où il aurait pu les jouer, 2003-2004. Ouais. Non, c'est à Monaco. Il a une invitation pour jouer Monaco, et il est tout jeune, il a 17 ans, il gagne son premier tour. Et je rentre sur le court, comme je le fais d'habitude pour tous les joueurs, sur tous les tournois, pour aller l'interviewer. Il me voit arriver avec le micro, et il me regarde, il fait « Ah, you know English. » Ok, je comprends, d'accord, bon, je vais t'aider. Donc on va le faire avec mon espagnol d'école, mais il va falloir que tu m'aides aussi. Et je lui dis en espagnol, il faut que tu m'aides, parce que j'ai pas pratiqué énormément, donc voilà, j'ai plein de souvenirs justement de l'école.
Mais
voilà, mais un peu plus ligné que ça quand même, pour qu'il comprenne que je parle quand même et que je le comprends surtout. Et donc je lui demande simplement de parler lentement. Donc il me dit ah ben très bien, parfait. Et pendant 5 ans, l'interview se passe bien. Deux premières questions, il répond, il fait attention. Et la troisième, il se sent bien. Et donc, on a l'impression que c'est fluide. Et tout d'un coup, hop, ça y est. Et là, il accélère un peu. Je ne comprends pas la fin de son interview. Bon, il retourne au vestiaire. Et à Monaco, on a la chance de pouvoir être à côté d'eux. Ils sont assez relax. Donc, je vais le voir au vestiaire. Et je lui dis, c'était super, c'était très bien. Merci beaucoup. Et puis, il me dit, non, merci à toi de m'avoir aidé en espagnol. Et je lui dis, mais on le fera à chaque fois. Et je pense qu'on va en faire plusieurs à l'avenir. Je me doutais qu'il allait en gagner quelques-uns des matchs. Mais pas autant que ça. Je pensais pas à 14 ici. Et donc, il me dit, je lui dis, la prochaine fois, il faudra quand même que tu vraiment fasses attention. Parce que la fin, je l'ai pas eu. Ah, il me dit, oui. Puis, en plus de ça, j'ai mis des mots un peu Mallorcan pour mes amis, donc voilà, donc bien,
merci.
Donc
merci.
C'est ça, donc je lui dis essaye de, voilà. Et donc pendant 5-6 ans, ben, on a fait nos interviews en espagnol, y compris ici où je faisais aussi les premières, et donc ça s'est très très bien passé, et donc on a développé cette relation. Il n'a jamais changé, il vient toujours dire bonjour. Rafa, c'est le joueur qui, quand il quittait Roland, il allait dire au revoir quasiment à tout le monde, toutes les personnes qui étaient autour de lui dans le vestiaire et être dans l'organisation. Il n'a pas changé d'iota depuis qu'il a 17 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'adorent, l'aiment. Et certains, à l'extérieur, ne l'ont pas non plus toujours compris. Mais c'est un vrai champion et un bel être humain.
Alors, j'avais une question pour toi, parce qu'on parle de voix. Et c'est vrai que la voix significative, on te repère, on t'entend. Mais il y a Kader Hanouni qui est arbitre. Qui a lui aussi une sacrée voix, et c'est ta chance qu'il fasse arbitre pour le coup, parce qu'il pourrait être en concurrence.
Kader
m'a dit piquer ta place.
Non, mais Kader a une très belle voix. Exactement, Kader, c'est pas 40-15. Ouais.
C'est parce que c'est limité. Ce que j'adore, c'est quand il dit reprise.
Ouais, c'est ça. il a cette voix grave qui fait un bien fou justement dans les stades, parce que ça percute le micro, et c'est parfait d'avoir ce genre de voix. Ça aide. Et Kader qui disait qu'il avait demandé s'il pouvait pas travailler de temps en temps pour faire des voix au cinéma. Ouais. Il a raison d'essayer.
La question, c'était de savoir, parce que Alexander Zverev a joué déjà 1, 2, 3, c'est la quatrième fois sur le central. Et justement, comment il est, Alexander Zverev, sachant qu'il vit un truc quand même extrêmement particulier de revenir ici à Roland-Garros après son accident. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelqu'un qui est dans une forme de renaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore un petit peu effrayé par ce qui lui est arrivé? Comment tu le sens humainement, toi qui le vois dans le couloir, etc.? Est-ce qu'il a changé?
Non, alors il est effectivement très concentré. Moi, j'ai eu la chance de le voir. J'ai eu la chance de faire sa reprise au mois de décembre, reprise en compétition. Il y avait un tournoi exhibition en Arabie Saoudite, et on y était avec pas mal de joueurs, dont Dominic Thiem, Medvedev, Fritz, ouais, voilà, et Rublev et Sacha. Et donc Sacha avait de l'appréhension avant de rentrer, bien entendu. Il s'était superbement préparé. C'était sur dur, hein, c'était pas sur terre battue. Donc, il s'était superbement préparé. Il était content de rejouer. Il avait du plaisir, mais il n'avait pas le rythme. Bon, voilà. Donc, il a reprogressé. Et quand il est arrivé ici, il a joué son premier match. Il a joué sur le Langland. Et ensuite, il le gagne. Parce qu'il est 27e mondial. Il est pas dans le top 10. Hein, il est plus dans le top 10. Donc ils l'ont mis sur un autre cours. Et donc, il gagne son premier tour. Et le deuxième, il le joue ici.
Absolument.
Et là, quand il rentre à ce moment-là, oui, il y a une petite appréhension. On le sent. Motivation, appréhension. Et Sacha, je le connais depuis qu'il a 12 ans. Parce qu'il venait à Metz avec son frère qui a 10 ans de plus que lui, Micha. Et Micha tapait avec lui. Et donc, les autres joueurs le voyaient taper. Ils disaient, mais il joue bien ton frère à 12 ans. Est-ce qu'on peut taper avec lui? Donc, il a tapé très rapidement, très tôt avec d'autres joueurs. Donc, on l'a toujours eu dans l'environnement de la famille qui est charmante, qui sont gentils comme tout, et on pouvait le voir évoluer. Alors c'était le même, mais vous imaginez un mètre de moins, quoi. Donc il a vraiment grandi avec le tennis et avec les professionnels. Et donc c'est quelqu'un qui adore ça, qui se prépare vraiment totalement, qui vit tennis. Donc il est rentré avec, oui, un œil un peu nerveux, on va dire. Voilà, c'est ça. L'œil nerveux qui regardait un peu partout, quoi.
Nos auditeurs visualisent les choses. En plus, quand le joueur rentre sur le court Philippe Chatrier, c'était à 2-3 mètres. L'entrée des joueurs est à 2-3 mètres de l'endroit où il s'est fait sa blessure.
Exactement.
Juste là.
Tu as raison, c'est 3 mètres.
En conférence de presse, il en a parlé et il a dit oui, j'y pensais, j'ai regardé l'endroit. Voilà. Parce que c'était vraiment terrifiant, hein, ce qui lui est arrivé, et comment imaginer qu'un an plus tard il soit sur ce court en quart de finale et peut-être.
Alors il a conjuré, je pense, le sort, et pour moi, depuis la semaine dernière, vu comment il a joué, notamment toutes les sessions de nuit, parce qu'il en a joué en nocturne, hein, ouais, beaucoup, il est prêt vraiment pour aller au bout. Je serais pas surpris de le voir en finale, franchement, même s'il y a encore du chemin, hein, il y a encore
ce
match-là et du monde, Rune Rude, donc ouais, face à lui, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, ça sera difficile. Mais vraiment, il s'est préparé pour être, très très
incroyable.
Fort. Ouais. Déjà qu'il retourne en demi-finale, je pense que ça va être quelque chose de fort pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il est en train de reboucler cette boucle et qu'il repart vraiment ici.
Non mais très objectivement, déjà quand on voit les difficultés que les joueurs blessés ont à revenir, on peut prendre le cas par exemple de Dominic Thiem, et que lui, il a retrouvé un niveau vraiment sensationnel en aussi peu de semaines, c'est absolument.
Je vais vous donner une anecdote. Elle s'est passée après le dernier match. Donc, il gagne contre Dimitrov en 3-7, exactement. Et on est dans la brèche. On dit au revoir. Donc, les gens, il fait la presse. Il va partir pour aller faire au sport. Donc, il part dans un couloir. Il s'éloigne. En s'éloignant, il se retourne et il demande à Sergueï Bubka, qui est le fils de Sergueï Bubka, le perchiste, son fils, est ancien joueur pro. Tout à fait, il était dans les 200 premiers. Et il est son agent maintenant, c'est lui qui s'occupe un peu de lui. Et il lui demande, demande si on peut taper. Ça, je lui dis, il veut taper quoi sur le central? Oui, oui, oui. Donc il y a Michel Garcia qui s'occupe des cours, qui est le responsable des cours, qui demande l'autorisation s'il pouvait rester. Les spectateurs étaient partis et il a fait 20 minutes de service.
Il faut dire, il est 23h30.
Exactement, près, hein. Exactement. Et donc il est venu retaper et il a fait 20, et on est resté, on a regardé. Marion Bartoli était là à côté. Elle était impressionnée. Elle aimait faire ça aussi. Elle aimait continuer de s'entraîner après les matchs et elle disait, voilà.
Roland Garros.
Sound for all.
Le son pour tous.
By Orange.
Et voilà, on n'est plus très loin des demi-finales hommes, ça se précise. Oui, c'est une affiche de feu par laquelle on va commencer à partir de 14h45. C'est le jeune pousse qui veut tout pousser. C'est Carlos Alcaraz et un ancien qui a déjà gagné par deux fois ici même. Je parle bien de Roland Garros et qui est venu même plusieurs fois en finale. Novak Djokovic, on sera là avec Christophe Taureau qui est à côté de moi.
Et oui, je serai là évidemment au rendez-vous pour ce duel que tout Roland Garros attend depuis quasiment deux semaines entre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic à la poursuite de son 23e titre du Grand Chelem et de son 3e titre ici à Paris. Ça va être exceptionnel. La deuxième demi-finale, absolument, entre Casper Ruud, finaliste l'an passé, Le joueur en pleine renaissance, Alexander Zverev, l'Allemand, qui va jouer sa troisième demi-finale ici à Paris, consécutive. Il est extrêmement régulier sur le court Philippe Châtrier. Et surtout, on se rappelle qu'il avait été gravement blessé l'an dernier en demi-finale. C'est une vraie renaissance et tout le monde du tennis est ravi pour lui. Et il va peut-être se hisser pour la première fois en finale ici à Roland-Garros.
Aucune chance de nous louper, en tout cas on l'espère. On vous attend à partir de 14h45 sur Sound for All by Orange. À tout à l'heure.
Roland Garros.
Sound for All.
Le son pour tous.
L'invité.
On a de la chance d'avoir Marc quelques minutes. Pour cette édition, toi qui as présenté tous les joueurs, pas forcément que sur le Châtrier, hein.
Non, il y a de très beaux matchs hein, depuis le début de la quinzaine. Moi, ouais. Je trouve que les confrontations sont belles. On avait dit la question avant le tournoi, qui pour remplacer Rafael Nadal puisqu'il n'est pas là. Donc il y avait pas un favori, mais il y en avait plusieurs.
Ce qui était plus que rare.
Voilà, hein. Exactement. Assez.
Pour revenir à tes débuts, est-ce que tu te souviens précisément de la première fois où tu as fait une annonce sur le court Philippe Châtrier? Est-ce qu'il y a des petits papillons dans l'estomac?
Il y a toujours des petits papillons. La première fois comme maintenant, il y en a toujours. On est sur un championnat du monde, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'extrême. Non, je pourrais pas te le dire. Il faut que je retrouve. Je l'ai dans mes fiches. Ouais. Je l'ai dans mes fiches. Il faudrait que je le retrouve. Le premier tour, le premier jour de 2004 sur le tableau. Il faut que je retrouve quels sont les joueurs qui sont rentrés en premier sur le court Philippe Châtrier. Je te dirai effectivement quel était le match. Mais non, je l'ai un peu oublié ce match-là. C'est vrai. Mais c'était important parce qu'on veut pas se tromper, donc on écrit tout, on est presque à la limite de lire. Moi, j'aime pas trop non plus systématiquement lire. J'aime bien quand même que ce soit quelque chose de fluide. Mais la première fois, oui, on fait attention à tous les détails.
Et comme tu disais, encore aujourd'hui, il y a les petits papillons, c'est bien normal. C'est de la concentration en quelque sorte, et c'est mondialement écouté. Oui, on a bien l'impression que il y a quelque chose sur les épaules, quoi.
On est en direct, hein. C'est du direct. On est en direct avec la foule et une foule qu'il y ait 1000, 15 000, 80 000 comme dans les grands stades. C'est pareil. Si vous faites une petite erreur, ça fait du bruit. Si vous êtes dans le bon tempo, ça fait aussi du bruit, mais dans le bon sens. Et c'est ce qu'on recherche tous. Donc il faut avoir le bon tempo, essayer d'éviter les erreurs. On en fait, tout le monde en fait, j'en ai fait, il y en a bien entendu qui en font. Donc c'est mais moins elle est grosse, moins elle fait de bruit, et il faut surtout éviter justement de bafouiller ou d'avoir des erreurs sur le palmarès d'un grand joueur. Si vous voyez ce que je veux dire.
Il a gagné 12 fois à Roland-Garros, alors que c'est 14. Voilà, c'est ça peut s'entendre.
Voilà, ça peut faire du bruit. Mais dans le sens.
Mais ça ne peut pas arriver.
Non.
Il y a plein de choses iconiques dans ce stade à Roland-Garros. Et finalement, au fil du temps, ta voix et tes annonces sont quelque part devenues une grande partie du paysage et de l'ambiance de Roland-Garros. Est-ce que tu imaginais évidemment que ce serait le cas?
C'est gentil. Non, moi je viens d'un...
Maintenant tu fais partie
du
paysage.
Oui, j'imaginais pas ça à ce moment-là. On essaie de faire quelque chose de propre. Je suis un peu le porte-parole de toute l'organisation. Il y a énormément de monde derrière, plus de 1000 personnes, vous le savez. Donc quand ces gens-là font un travail considérable, on a envie de faire quelque chose de très propre pour eux. Donc on se concentre surtout là-dessus. Et puis surtout pour que les joueurs soient mis en valeur, parce que mon rôle c'est aussi de mettre les joueurs en valeur. Donc oui, après il y a une signature vocale, comme il y a des signatures visuelles, comme il y a des signatures de partout hein, dans les grands événements. Oui, j'en suis, c'est vrai que j'en suis fier, c'est un vrai plaisir. Mais moi je viens de l'athlétisme, je pensais rester un peu je pensais pas en faire un métier d'ailleurs. J'ai commencé à être présentateur speaker sur les meetings d'athlétisme auxquels je participais pas, et
sport que tu as pratiqué.
Sport que j'ai pratiqué, voilà. Et donc ça m'a beaucoup plu de faire ça. Mais j'ai plusieurs métiers, je pensais vraiment pas faire ce métier-là. Puis au fur et à mesure que je commençais à être demandé dans pas mal de sports, exactement. Donc voilà, donc j'en ai fait un métier.
Il a gagné le 100 mètres de la voix en athlétisme, qui est très très rare.
C'est ça.
Alors, pour se projeter, bon, on est
plus... Il y a toujours de deux, hein.
Tout va bien. Ouais.
Et ça va pas bouger tout de suite, hein. On croit que ce match peut
durer, effectivement. Oui.
Tu as vu un petit peu tout le monde, présenté un petit peu tout le monde. Qui t'a étonné?
Toi, ce qui est aussi intéressant avec Marc, c'est qu'il les voit un petit peu avant.
Voilà, on les voit avant. Alors, tu as raison, cette particularité d'être là-bas, moi ce que j'aime c'est ça, c'est être au contact. Je suis un privilégié, hein. Je suis vraiment au contact de ce que j'aime, c'est le sport. Et on dit souvent, le sport, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de physique et tout ça, mais il y a une partie mentale qui est importante. Et dans cette partie mentale, vous en avez certainement parlé, il y a effectivement l'entrée. La façon dont les joueurs se se concentre. Un joueur qui vient pour la première fois sur le central, c'est, vous avez vu, c'est Gladiator, c'est quelqu'un qui rentre dans l'arène pour la première fois. Donc, il y a un peu d'appréhension.
Ce... Alors, justement, c'est exactement
peu de peur.
Ce qu'on disait tout à l'heure pour
Echeverry.
Est-ce que tu as vu s'il était.
Bien sûr.
S'il tremblait un peu.
Il est rentré avec sur le visage, c'est ça qui était fort, de la concentration, mais aussi, j'ai lu, un certain plaisir à être là.
Ah,
donc, il l'avait. Alors que certains joueurs sont peut-être plus tendus que lui, plutôt les joueuses d'ailleurs, ça affecte beaucoup certaines joueuses qui sont assez tendues à leur entrée sur le court. Pas celles qui ont l'habitude d'y rentrer, qui ont une concentration assez marquée, mais celles et ceux qui viennent pour la première fois, on sent quelque chose de particulier. Et lui, j'ai senti un vrai plaisir à être là. Je pense que voilà, il avait envie d'être sur ce court.
Ben, c'est sûr que pour un Argentin, se retrouver sur le court central de Roland-Garros, c'est toujours un moment particulier. On ne peut pas, Marc, dissocier ton histoire ici à Roland-Garros de celle de Raphaël Nadal. Parce que pour Raphaël Nadal, finalement, tu fais aussi partie de son environnement. Tu as été là pour toutes ses victoires. Et mine de rien, vous avez développé une sorte de relation. Et je crois que si, par exemple, par hasard, tu avais été malade, ou etc., et s'il y avait eu un Roland-Garros où tu n'avais pas été là alors qu'il jouait, ça aurait peut-être été quelque chose d'un petit peu particulier pour lui, même si on sait que quand il y a des obstacles, il les surmonte.
Mais il était fort.
C'est quand même formidable d'avoir été le contemporain et toi, le speaker de cette histoire incroyable d'un joueur de tennis qui gagne 14 fois le même tournoi.
Le rapport que j'ai avec Nadal, il date pas de 2004, où il est venu jouer pour la première fois le tournoi, comme moi, pour la première fois. Non, il n'est pas joué 2004, il joue 2005. Il joue 2005, c'est vrai.
Il
date de 2003, en fait, mon rapport avec Nadal. Et c'est pas, bien sûr, à Roland-Garros, qu'il n'a pas joué non plus, 2003, puisqu'il a aussi blessé. Les deux premières fois où il aurait pu les jouer, 2003-2004. Non, c'est à Monaco. Il a une invitation pour jouer Monaco. Et il est tout jeune, il a 17 ans. Il gagne son premier tour. Et je rentre sur le court, comme je le fais d'habitude pour tous les joueurs, sur tous les tournois, pour aller l'interviewer. Il me voit arriver avec le micro et il me regarde, il fait « Ah, you know I'm English. » Ok, je comprends, d'accord, bon, je vais t'aider. Donc on va le faire avec mon espagnol d'école, mais il va falloir que tu m'aides aussi. Et je lui dis en espagnol, il faut que tu m'aides parce que j'ai pas pratiqué énormément, donc voilà, j'ai plein de souvenirs justement de l'école.
Mais
voilà, mais un peu plus lié que ça quand même, pour qu'il comprenne que je parle quand même et que je le comprends surtout. Et donc je lui demande simplement de parler lentement. Donc il me dit ah ben très bien, parfait. Et pendant 5 ans, l'interview se passe bien. Deux premières questions, il répond, il fait attention. Et la troisième, il se sent bien. Et donc, on a l'impression que c'est fluide. Et tout d'un coup, hop, ça y est. Et là, il accélère un peu. Je comprends pas la fin de son interview. Bon. Il retourne au vestiaire. Et à Monaco, on a la chance de pouvoir être à côté d'eux. Ils sont assez relax. Donc, je vais le voir au vestiaire. Et je lui dis, c'était super, c'était très bien. Merci beaucoup. Et puis, il me dit, non, merci à toi de m'avoir aidé en espagnol. Et je lui dis, mais on le fera à chaque fois. Et je pense qu'on va en faire plusieurs à l'avenir. Je me doutais qu'il allait en gagner quelques-uns des matchs. Mais pas autant que ça. Je pensais pas à 14 ici. Et donc, il me dit, je lui dis, la prochaine fois, il faudra quand même que tu vraiment fasses attention. Parce que la fin, je l'ai pas eu. Ah, il me dit, oui. Puis, en plus de ça, j'ai mis des mots un peu mallorcan pour mes amis, donc voilà. Donc bien,
merci.
Donc
merci.
C'est ça. Donc je dis, essaye de voilà. Et donc pendant 5-6 ans, ben on a fait nos interviews en espagnol, y compris ici où je faisais aussi les premières. Et donc ça s'est très très bien passé. Et donc on a développé cette relation. Il a jamais changé. Il vient toujours dire bonjour. Rafa, c'est le joueur qui quand il quittait Roland, il allait dire au revoir quasiment à tout le monde, toutes les personnes qui étaient autour de lui dans le vestiaire et être dans l'organisation. Il n'a pas changé d'iota depuis qu'il a 17 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'adorent, l'aiment. Et certains, à l'extérieur, ne l'ont pas non plus toujours compris. Mais c'est un vrai champion et un bel être humain.
Alors, j'avais une question pour toi, parce qu'on parle de voix. Et c'est vrai que la voix significative, on te repère, on t'entend. Mais il y a Kader Hanouni qui est arbitre. Qui a lui aussi une sacrée voix, et c'est ta chance qu'il fasse arbitre pour le coup, parce qu'il pourrait être en concurrence.
Kader m'a
dit piquer sa place.
Non, mais Kader a une très belle voix. Exactement, Kader,
c'est pas White.
40, 15.
C'est parce que c'est limité. Ce que j'adore, c'est quand il dit
repris.
Ouais, c'est ça. Non, mais il a cette voix grave qui fait un bien fou justement dans les stades parce que ça percute le micro et c'est parfait d'avoir ce genre de voix. Ça aide. Et Kader qui disait qu'il avait demandé s'il pouvait pas travailler de temps en temps pour faire des voix au cinéma. Ouais. Il a raison d'essayer.
La question c'était de savoir parce que Alexander Zverev a joué déjà 1, 2, 3, c'est la quatrième fois sur le central. Et justement, comment il est, Alexander Zverev, sachant qu'il vit un truc quand même extrêmement particulier de revenir ici à Roland-Garros après son accident. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelqu'un qui est dans une forme de renaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore un petit peu effrayé par ce qui lui est arrivé? Comment tu le sens humainement, toi qui le vois dans le couloir, etc.? Est-ce qu'il a changé?
Non, alors il est effectivement très concentré. Moi, j'ai eu la chance de le voir. J'ai eu la chance de faire sa reprise au mois de décembre, reprise en compétition. Il y avait un tournoi exhibition en Arabie Saoudite et on y était avec pas mal de joueurs, dont Dominic Thiem, Medvedev, Fritz, ouais. Voilà, et Rublev et Sacha. Et donc Sacha avait de l'appréhension avant de rentrer, bien entendu. Il s'était superbement préparé. C'était sur dur, hein, c'était pas sur terre battue. Donc il s'était superbement préparé. Il était content de rejouer. Il avait du plaisir, mais il n'avait pas le rythme. Bon, voilà. Donc il a reprogressé. Et quand il est arrivé ici, il a joué son premier match. Il a joué sur le Langland. Et ensuite, il le gagne. Parce qu'il est 27e mondial. Il est pas dans le top 10. Hein, il est plus dans le top 10. Donc ils l'ont mis sur un autre cours. Et donc il gagne son premier tour. Et le deuxième, il le joue ici.
Absolument.
Et là, quand il rentre à ce moment-là, oui, il y a une petite appréhension. On le sent. Motivation, appréhension. Et Sacha, je le connais depuis qu'il a 12 ans parce qu'il venait à Metz avec son frère qui a 10 ans de plus que lui, Micha. Et Micha tapait avec lui. Et donc les autres joueurs le voyaient taper. Ils disaient mais il joue bien ton frère à 12 ans. Est-ce qu'on peut taper avec lui? Donc il a tapé très rapidement, très tôt avec d'autres joueurs. Donc on l'a toujours eu dans l'environnement de la famille qui est charmante, qui sont gentils comme tout, et on pouvait le voir évoluer. Alors c'était le même, mais vous imaginez un mètre de moins, quoi. Donc il a vraiment grandi avec le tennis et avec les professionnels. Et donc c'est quelqu'un qui adore ça, qui se prépare vraiment totalement, qui vit tennis. Donc il est rentré avec, oui, un œil un peu nerveux, on va dire. Voilà, c'est ça. L'œil nerveux qui regardait un peu partout, quoi.
Nos auditeurs visualisent les choses. En plus, quand le joueur rentre sur le court Philippe Chatrier, c'était à 2-3 mètres. L'entrée des joueurs est à 2-3 mètres de l'endroit où il s'est fait sa blessure.
Exactement.
Juste là.
Tu as raison, c'est 3 mètres.
En conférence de presse, il en a parlé et il a dit oui, j'y pensais, j'ai regardé l'endroit. Voilà. Parce que c'était vraiment terrifiant, hein, ce qui lui est arrivé, et comment imaginer qu'un an plus tard il soit sur ce court en quart de finale et peut-être.
Alors il a conjuré, je pense, le sort, et pour moi, depuis la semaine dernière, vu comment il a joué, notamment toutes les sessions de nuit, parce qu'il en a joué en nocturne, hein, ouais, beaucoup, il est prêt vraiment pour aller au bout. Je serais pas surpris de le voir en finale, franchement, même s'il y a encore du chemin, hein, il y a encore ce match-là et du monde, Rune et Rude, donc ouais, face à lui, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, ça sera difficile. Mais vraiment, il s'est préparé pour être, très très
incroyable.
Fort. Ouais. Ouais. Déjà qu'il retourne en demi-finale, je pense que ça va être quelque chose de fort pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il est en train de reboucler cette boucle et qu'il repart vraiment ici.
Non mais très objectivement, déjà quand on voit les difficultés que les joueurs blessés ont à revenir, on peut prendre le cas par exemple de Dominic Thiem, et que lui, il a retrouvé un niveau vraiment sensationnel en aussi peu de semaines, c'est absolument.
Je vais vous donner une anecdote. Elle s'est passée après le dernier match. Donc, il gagne contre Dimitrov en 3-7, exactement. Et on est dans la brèche. On dit au revoir. Donc, les gens, il fait la presse. Il va partir pour aller faire au sport. Donc, il part dans un couloir. Il s'éloigne. En s'éloignant, il se retourne et il demande à Sergei Bubka, qui est le fils de Sergei Bubka, le perchiste. Son fils est ancien joueur
pro.
Tout à fait. Il était dans les 200 premiers. Et il est son agent maintenant. C'est lui qui s'occupe un peu de lui. Et il lui demande, demande si on peut taper. Ça, je lui dis, il veut taper quoi sur le central? Oui. Donc, il y a Michel Garcia qui s'occupe des cours, qui est responsable des cours, qui demande l'autorisation s'il pouvait rester. Les spectateurs étaient partis et il a fait 20 minutes de service.
Il faut dire, il est 23h30.
Exactement, exactement. Et donc, il est venu retaper et a fait 20, et on est resté, on a regardé. Marion Bartoli était là à côté. Elle était impressionnée. Elle aimait faire ça aussi. Elle aimait continuer de s'entraîner après les matchs et elle disait, voilà.
Roland Garros.
Sound for all.
Le son pour tous.
by Orange.
Et voilà, on n'est plus très loin des demi-finales hommes, ça se précise. Oui, c'est une affiche de feu par laquelle on va commencer à partir de 14h45. C'est le jeune pousse qui veut tout pousser. C'est Carlos Alcaraz et un ancien qui a déjà gagné par deux fois ici même. Je parle bien de Roland Garros et qui est venu même plusieurs fois en finale. Novak Djokovic, on sera là avec Christophe Taureau qui est à côté de moi.
Et oui, je serai là, évidemment, au rendez-vous pour ce duel que tout Roland-Garros attend depuis quasiment deux semaines entre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic à la poursuite de son 23e titre du Grand Chelem et de son 3e titre ici à Paris. Ça va être exceptionnel. La deuxième demi-finale est absolument entre Casper Ruud, finaliste l'an passé, le joueur en pleine renaissance, Alexander Zverev, l'Allemand, qui va jouer sa troisième demi-finale ici à Paris consécutive. Il est extrêmement régulier sur le court Philippe Châtrier. Et surtout, on se rappelle qu'il avait été gravement blessé l'an dernier en demi-finale. C'est une vraie renaissance et tout le monde du tennis est ravi pour lui. Et il va peut-être se hisser pour la première fois en finale ici à Roland-Garros.
Aucune chance de nous louper, en tout cas, on l'espère. On vous attend à partir de 14h45 sur Sound for All by Orange. À tout à l'heure.
Roland Garros.
Sound for All.
Le son pour tous.
L'invité.
On a de la chance d'avoir Marc quelques minutes. Alors pour cette édition, toi qui as présenté tous les joueurs, pas forcément que sur le Châtrier, hein.
Non, il y a de très beaux matchs, hein, depuis le début de la quinzaine. Moi, ouais. Je trouve que les confrontations sont belles. On avait dit qui la question avant le tournoi, qui pour remplacer Rafael Nadal puisqu'il n'est pas là. Donc il y avait pas un favori, mais il y en avait plusieurs.
Ce qui était plus que rare.
Voilà, hein. Exactement. Assez.
Pour revenir à tes débuts, est-ce que tu te souviens précisément de la première fois où tu as fait une annonce sur le court Philippe Châtrier? Est-ce qu'il y a des petits papillons dans l'estomac?
Il y a toujours des petits papillons. La première fois comme maintenant, il y en a toujours. On est sur un championnat du monde, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'extrême. Non, je pourrais pas te le dire. Il faut que je retrouve. Je l'ai dans mes fiches. Ouais. Je l'ai dans mes fiches. Il faudrait que je le retrouve. Le premier tour ou le premier jour de 2004 sur le tableau. Il faut que je retrouve quels sont les joueurs qui sont rentrés en premier sur le court Philippe Châtrier. Je te dirai effectivement quel était le match. Mais non, je l'ai un peu oublié ce match-là. C'est vrai. Mais c'était important parce qu'on veut pas se tromper, donc on écrit tout, on est presque à la limite de lire. Moi, j'aime pas trop non plus systématiquement lire. J'aime bien quand même que ce soit quelque chose de fluide. Mais la première fois, oui, on fait attention à tous les détails.
Et comme tu disais, encore aujourd'hui, il y a les petits papillons, c'est bien normal. C'est de la concentration en quelque sorte, et c'est mondialement écouté. Oui, on a bien l'impression que il y a quelque chose sur les épaules, quoi.
On est en direct, hein. C'est, ouais. C'est du direct. On est en direct avec la foule et une foule qu'il y ait 1000, 15 000, 80 000 comme dans les grands stades. C'est pareil. Si vous faites une petite erreur, ça fait du bruit. Si vous êtes dans le bon tempo, ça fait aussi du bruit, mais dans le bon sens. Et c'est ce qu'on recherche tous. Donc il faut avoir le bon tempo, essayer d'éviter les erreurs. On en fait, tout le monde en fait, j'en ai fait, il y en a bien entendu qui en font. Donc c'est mais moins elle est grosse, moins elle fait de bruit, et il faut surtout éviter justement de bafouiller ou d'avoir des erreurs sur le palmarès d'un grand joueur. Si vous voyez ce que je veux dire.
Il a gagné 12 fois à Roland-Garros, alors que c'est 14. Voilà, c'est ça peut s'entendre.
Voilà, ça peut faire du bruit. Mais dans le sens.
Mais ça ne peut pas arriver.
Non.
Il y a plein de choses iconiques dans ce stade à Roland-Garros. Et finalement, au fil du temps, ta voix et tes annonces sont quelque part devenues une grande partie du paysage et de l'ambiance de Roland-Garros. Est-ce que tu imaginais évidemment que ce serait le cas?
C'est gentil. Non, moi je viens d'un...
Maintenant tu fais partie
du
paysage.
Oui, j'imaginais pas ça à ce moment-là. On essaie de faire quelque chose de propre. Je suis un peu le porte-parole de toute l'organisation. Il y a énormément de monde derrière. Plus de 1000 personnes, vous le savez. Donc quand ces gens-là font un travail considérable, on a envie de faire quelque chose de très propre pour eux. Donc on se concentre surtout là-dessus. Et puis surtout pour que les joueurs soient mis en valeur. Parce que mon rôle, c'est aussi de mettre les joueurs en valeur. Donc après, il y a une signature vocale. comme il y a des signatures visuelles, comme il y a des signatures, voilà, de partout, hein, dans les grands événements. Oui, c'est vrai que j'en suis fier. C'est un vrai plaisir. Mais moi, je viens de l'athlétisme. Je pensais rester un peu dans l'athlétisme. Je pensais pas en faire un métier, d'ailleurs. J'ai commencé à être présentateur, speaker sur les meetings d'athlétisme auxquels je participais pas. Et,
sport que tu as pratiqué.
Sport que j'ai pratiqué, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Mais j'ai eu plusieurs métiers. Je pensais vraiment pas faire ce métier-là. Puis au fur et à mesure que je commençais à être demandé dans pas mal de sports, exactement. Donc voilà. Donc j'en ai fait un métier.
Il a gagné le 100 mètres de la voix en athlétisme, qui est très très rare.
C'est ça.
Alors pour se projeter, bon, on est
plus. Il y a toujours 2-2, hein.
Pour oui, tout va bien. Ouais.
Et ça va pas bouger tout de suite. Hein. On sent que ce match peut
durer. Effectivement. Oui.
Tu as vu un petit peu tout le monde, présenter un petit peu tout le monde. Qui t'a étonné?
Ce qui est aussi intéressant avec Marc, c'est qu'il les voit un petit peu avant. Ah, voilà,
on les voit avant. Alors, tu as raison, cette particularité d'être là-bas, moi ce que j'aime c'est ça, c'est être au contact, je suis un privilégié, hein. Je suis vraiment au contact de ce que j'aime, c'est le sport. Et on dit souvent, le sport, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de physique et tout ça, mais il y a une partie mentale qui est importante. Et dans cette partie mentale, vous en avez certainement parlé, il y a effectivement l'entrée, la façon dont les joueurs se concentre. Un joueur qui vient pour la première fois sur le central, vous avez vu Gladiator, c'est quelqu'un qui rentre dans l'arène pour la première fois. Donc il y a un peu d'appréhension.
Alors justement, c'était
un peu de peur.
Ce qu'on disait tout à l'heure pour
Echeverry.
Est-ce que tu as vu s'il était.
Bien sûr.
S'il tremblait un peu.
Il est rentré avec une sur le visage, c'est ça qui est fort, de la concentration, mais aussi j'ai lu un certain plaisir à être là.
Il l'avait.
Alors que certains joueurs sont peut-être plus tendus que lui, plutôt les joueuses d'ailleurs, ça affecte beaucoup certaines joueuses qui sont assez tendues à leur entrée sur le court. Pas celles qui ont l'habitude d'y rentrer, qui ont une concentration assez marquée, mais celles et ceux qui viennent pour la première fois, on sent quelque chose de particulier. Et lui, j'ai senti un vrai plaisir à être là. Je pense que voilà, il avait envie d'être sur ce court.
Ben, c'est sûr que pour un Argentin, se retrouver sur le court central de Roland-Garros, c'est toujours un moment particulier. On ne peut pas, Marc, dissocier ton histoire ici à Roland-Garros de celle de Raphaël Nadal, parce que pour Raphaël Nadal, finalement, tu fais aussi partie de son environnement. Tu as été là pour toutes ses victoires et mine de rien, vous avez développé une sorte de relation. Et je crois que si, par exemple, par hasard, tu avais été malade ou etc., et s'il y avait eu un Roland-Garros où tu n'avais pas été là alors qu'il jouait, ça aurait peut-être été quelque chose d'un petit peu particulier pour lui, même si on sait que quand il y a des obstacles, il les surmonte.
Mais il était fort.
C'est quand même formidable d'avoir été le contemporain et toi, le speaker de cette histoire incroyable d'un joueur de tennis qui gagne 14 fois le même tournoi.
Le rapport que j'ai avec Nadal, il date pas de 2004, où il est venu jouer pour la première fois le tournoi, comme moi, pour la première fois. Non, il n'a pas joué 2004, il joue 2005.
Il
date de 2003, en fait, mon rapport avec Nadal. Et c'est pas, bien sûr, à Roland-Garros, qu'il n'a pas joué non plus, 2003, puisqu'il a aussi blessé les deux premières fois où il aurait pu les jouer, 2003-2004. Ouais. Non, c'est à Monaco. Il a une invitation pour jouer Monaco. Et il est tout jeune, il a 17 ans. Il gagne son premier tour. Et je rentre sur le court, comme je le fais d'habitude pour tous les joueurs, sur tous les tournois, pour aller l'interviewer. Il me voit arriver avec le micro et il me regarde, il fait « Ah, you know English. » Ok, je comprends, d'accord, bon, je vais t'aider. Donc on va le faire avec mon espagnol d'école, mais il va falloir que tu m'aides aussi. Et je lui dis en espagnol, il faut que tu m'aides parce que j'ai pas pratiqué énormément, donc voilà, j'ai plein de souvenirs justement de l'école.
Mais
voilà, c'est un peu plus lié que ça quand même pour qu'il comprenne que je parle quand même et que je le comprends surtout. Et donc je lui demande simplement de parler lentement. Donc il me dit très bien, parfait. Et pendant 5 ans, l'interview se passe bien. 2 premières questions, il répond, il fait attention, il est concentré. Et la troisième, il se sent bien. Et donc on a l'impression que c'est fluide. Et tout d'un coup, hop, ça y est. Et là, il accélère un peu. Et donc, je comprends pas la fin de son interview. Bon, il retourne au vestiaire et à Monaco on a la chance de pouvoir être à côté d'eux, ils sont assez relax, donc je vais le voir au vestiaire et je lui dis c'était super, c'était très bien, merci beaucoup. Et puis il me dit non, merci à toi de m'avoir aidé en espagnol. Et je lui dis mais on le fera à chaque fois et je pense qu'on va en faire plusieurs à l'avenir. Je me doutais qu'il allait en gagner quelques-uns des matchs, mais pas autant que ça, je pensais pas à 14 ici. Et donc il me dit, je lui dis la prochaine fois il faudra quand même que tu vraiment fasses attention parce que la fin je l'ai pas eu. Ah, il me dit oui, puis en plus de ça j'ai mis des mots un peu mallorcans pour mes amis, donc voilà. Donc bien,
merci.
Donc
merci.
Merci. C'est ça, donc je lui dis essaye de voilà. Et donc pendant 5-6 ans ben on a fait nos interviews en espagnol, y compris ici où je faisais aussi les premières, et donc ça s'est très très bien passé et donc on a développé cette relation. Il a jamais changé, il vient toujours dire bonjour. Rafa, c'est le joueur qui quand il quittait Roland il allait dire au revoir quasiment à tout le monde, toutes les personnes qui étaient autour de lui dans le vestiaire et dans l'organisation. Il n'a pas changé d'un iota depuis qu'il a 17 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'adorent, l'aiment. Et certains, à l'extérieur, ne l'ont pas non plus toujours compris. Mais c'est un vrai champion et un bel être humain.
Alors, j'avais une question pour toi, parce qu'on parle de voix. Et c'est vrai que la voix significative, on te repère, on t'entend. Mais il y a Kader Hanouni qui est arbitre. Qui a lui aussi une sacrée voix, et c'est ta chance qu'il fasse arbitre pour le coup, parce qu'il pourrait être en concurrence.
Kader
m'a dit piquer ta place.
Non, mais Kader est très
Barry
belle
White
voix. Exactement. Kader, c'est
pas. 40,
15. Ouais.
C'est parce que c'est limité.
Ouais, c'est ce que j'adore, c'est quand il dit repris.
Ouais, c'est ça. Non, mais il a cette voix grave qui fait un bien fou, justement, dans les stades, parce que ça percute le micro et c'est parfait d'avoir ce genre de voix. Ça aide. Et Kader qui disait qu'il avait demandé s'il pouvait pas travailler de temps en temps pour faire des voix au cinéma. Ouais. Il a raison d'essayer.
La question c'était de savoir, parce que Alexander Zverev a joué déjà 1, 2, 3, c'est la quatrième fois sur le central, et justement comment il est Alexander Zverev, sachant qu'il vit un truc quand même extrêmement particulier de revenir ici à Roland-Garros après son accident. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelqu'un qui est dans une forme de renaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore un petit peu effrayé par ce qui lui est arrivé? Comment tu le sens humainement, toi qui le vois dans le couloir, etc.? Est-ce qu'il a changé?
Non, alors il est effectivement très concentré. Moi j'ai eu la chance de le voir, j'ai eu la chance de faire sa reprise au mois de décembre, reprise en compétition. Il y avait un tournoi exhibition en Arabie Saoudite et on y était avec pas mal de joueurs, dont Dominic Thiem, Medvedev, Fritz, ouais. Voilà, et Rublev et Sacha. Et donc Sacha avait de l'appréhension avant de rentrer, bien entendu. Il s'était superbement préparé. C'était sur dur, hein, c'était pas sur terre battue. Donc il s'était superbement préparé. Il était content de rejouer, il avait du plaisir, mais il avait pas le rythme. Bon voilà. Donc il a reprogressé. Et quand il est arrivé ici, il a joué son premier match. Il a joué sur le Langland. Et ensuite, il le gagne parce qu'il est 27e mondial. Il est pas dans le top 10, hein, il est plus dans le top 10. Donc ils l'ont mis sur un autre cours et donc il gagne son premier tour et le deuxième, il le joue ici.
Absolument.
Et là quand il rentre à ce moment-là, oui, il y a une petite appréhension, on le sent. Motivation, appréhension et Sacha, je le connais depuis qu'il a 12 ans parce qu'il venait à Metz avec son frère qui a 10 ans de plus que lui, Micha, et Micha tapait avec lui et donc les autres joueurs le voyaient taper, ils disaient mais il joue bien ton frère à 12 ans, est-ce qu'on peut taper avec lui? Donc il a tapé très rapidement très tôt avec d'autres joueurs. Donc on l'a toujours eu dans l'environnement de la famille qui est charmante, qui sont gentils comme tout, et on pouvait le voir évoluer. Alors c'était le même, mais vous imaginez un mètre de moins, quoi. Donc il a vraiment grandi avec le tennis et avec les professionnels. Et donc c'est quelqu'un qui adore ça, qui se prépare vraiment totalement, qui vit tennis. Donc il est rentré avec, oui, un œil un peu nerveux, on va dire. Voilà, c'est ça. L'œil nerveux qui regardait un peu partout, quoi.
Nos auditeurs visualisent les choses. En plus, quand le joueur rentre sur le court Philippe Chatrier, c'était à 2-3 mètres. L'entrée des joueurs est à 2-3 mètres de l'endroit où il s'est fait sa blessure.
Exactement.
Juste là.
Tu as raison, c'est 3 mètres.
En conférence de presse, il en a parlé et il a dit oui, j'y pensais, j'ai regardé l'endroit. Voilà. Parce que c'était vraiment terrifiant, hein, ce qui lui est arrivé, et comment imaginer qu'un an plus tard il soit sur ce court en quart de finale et peut-être
alors il a conjuré, je pense, le sort, et pour moi, depuis la semaine dernière, vu comment il a joué, notamment toutes les sessions de nuit, parce qu'il en a joué en nocturne, hein, ouais. beaucoup, il est prêt vraiment pour aller au bout. Je serais pas surpris de le voir en finale. Franchement, même s'il y a encore du chemin, hein, il y a encore ce match-là et du monde, Rune Rude, donc ouais, face à lui, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, ça sera difficile. Mais vraiment, il s'est préparé pour être, très
incroyable.
Fort. Ouais. Ouais. Déjà qu'il retourne en demi-finale, je pense que ça va être quelque chose de fort pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il est en train de reboucler cette boucle et qu'il repart vraiment ici.
Non mais très objectivement, déjà quand on voit les difficultés que les joueurs blessés ont à revenir, on peut prendre le cas par exemple de Dominic Thiem, et que lui, il a retrouvé un niveau vraiment sensationnel en aussi peu de semaines, c'est absolument...
Alors, je vais vous donner une anecdote, elle s'est passée après le dernier match, donc il gagne contre Dimitrov en 3-7, exactement, et on est dans la brèche, on dit au revoir, donc les gens, il fait la presse, il va partir pour aller faire Eurosport, donc il part dans un couloir, il s'éloigne, en s'éloignant, il se retourne et il demande à Sergueï Boubka, qui est le fils de Sergueï Boubka, le perchiste, son fils est ancien joueur pro. Tout à fait, il était dans les 200 premiers et il est son agent maintenant, c'est lui qui s'occupe un peu de lui, et il lui demande demande si on peut taper. Ça, je lui dis, il veut taper quoi sur le central? Oui. Donc, il y a Michel Garcia qui s'occupe des cours, qui est le responsable des cours, qui demande l'autorisation s'il pouvait rester. Les spectateurs étaient partis et il a fait 20 minutes de service.
Il est 23h30.
Exactement, exactement. Et donc, il est venu retaper et il a fait 20, et on est resté, on a regardé. Marion Bartoli était là à côté. Elle était impressionnée. Elle aimait faire ça aussi. Elle aimait continuer de s'entraîner après les matchs et elle disait, voilà.
Roland Garros.
Sound for all.
Le son pour tous.
By Orange.
Et voilà, on n'est plus très loin des demi-finales hommes, ça se précise. Oui, c'est une affiche de feu par laquelle on va commencer à partir de 14h45. C'est le jeune pousse qui veut tout pousser. C'est Carlos Alcaraz et un ancien qui a déjà gagné par deux fois ici même. Je parle bien de Roland Garros et qui est venu même plusieurs fois en finale. Novak Djokovic, on sera là avec Christophe Taureau qui est à côté de moi.
Et oui, je serai là évidemment au rendez-vous pour ce duel que tout Roland Garros attend depuis quasiment deux semaines entre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic à la poursuite de son 23e titre du Grand Chelem et de son 3e titre ici à Paris. Ça va être exceptionnel. La deuxième demi-finale, absolument, entre Casper Ruud, finaliste l'an passé, le joueur en pleine renaissance, Alexander Zverev, l'Allemand, qui va jouer sa 3e demi-finale ici à Paris consécutive. Il est extrêmement régulier sur le court Philippe Châtrier. Et surtout, on se rappelle qu'il avait été gravement blessé l'an dernier en demi-finale. C'est une vraie renaissance et tout le monde du tennis est ravi pour lui. Et il va peut-être se hisser pour la première fois en finale ici à Roland-Garros.
Aucune chance de nous louper, en tout cas on l'espère. On vous attend à partir de 14h45 sur Sound for All by Orange. À tout à l'heure.
Roland Garros.
Sound for All.
Le son pour tous.
L'invité.
On a de la chance d'avoir Marc quelques minutes. Pour cette édition, toi qui as présenté tous les joueurs, pas forcément que sur le Châtrier, hein.
Non, il y a de très beaux matchs hein, depuis le début de la quinzaine. Moi, ouais. Je trouve que les confrontations sont belles. On avait dit qui la question avant le tournoi, qui pour remplacer Rafael Nadal puisqu'il n'est pas là. Donc il y avait pas un favori, mais il y en avait plusieurs.
Ce qui était plus que rare.
Voilà, hein. Exactement.
Pour revenir à tes débuts, est-ce que tu te souviens précisément de la première fois où tu as fait une annonce sur le court Philippe Châtrier? Est-ce qu'il y a des petits papillons dans l'estomac?
Il y a toujours des petits papillons. La première fois comme maintenant, il y en a toujours. On est sur un championnat du monde, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'extrême. Non, je pourrais pas te le dire. Il faut que je retrouve. Je l'ai dans mes fiches. Ouais. Je l'ai dans mes fiches. Il faudrait que je le retrouve. Le premier tour ou le premier jour de 2004 sur le tableau. Il faut que je retrouve quels sont les joueurs qui sont rentrés en premier sur le court Philippe Châtrier. Je te dirai effectivement quel était le match. Mais non, je l'ai un peu oublié ce match-là. C'est vrai. Mais c'était important parce qu'on veut pas se tromper, donc on écrit tout, on est presque à la limite de lire. Moi, j'aime pas trop non plus systématiquement lire. J'aime bien quand même que ce soit quelque chose de fluide. Mais la première fois, oui, on fait attention à tous les détails.
Et comme tu disais, encore aujourd'hui, les petits papillons, c'est bien normal. C'est de la concentration en quelque sorte. Et c'est mondialement écouté. Oui, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose sur les épaules. Quoi.
On est en direct. Hein, c'est du direct. On est en direct avec la foule. Et vous, une foule, qu'il y ait 1000, 15 000, 80 000 comme dans les grands stades.
C'est pareil.
Si vous faites une petite erreur, ça fait du bruit. Si vous êtes dans le bon tempo, ça fait aussi du bruit, mais dans le bon sens. Et c'est ce qu'on recherche tous. Donc il faut avoir le bon tempo, essayer d'éviter les erreurs. On en fait, tout le monde en fait, j'en ai fait. Il y en a bien entendu qui en font. Donc c'est mais moins elle est grosse, moins elle fait de bruit. Et il faut surtout éviter justement de bafouiller ou d'avoir des erreurs sur le palmarès d'un grand joueur. Si vous voyez ce que je veux dire.
Il a gagné 12 fois à Roland-Garros, alors que c'est 14.
Voilà, c'est ça.
Ça peut s'entendre.
Voilà, ça peut faire du bruit. Mais dans le sens.
Mais ça ne peut pas arriver.
Non.
Il y a plein de choses iconiques dans ce stade à Roland-Garros. Et finalement, au fil du temps, ta voix et tes annonces sont quelque part devenues une grande partie du paysage et de l'ambiance de Roland-Garros. Est-ce que tu imaginais évidemment que ce serait le cas?
C'est gentil. Non. Moi, je viens d'un.
Maintenant, tu fais partie
du
paysage.
Oui. J'imaginais pas ça à ce moment-là. On essaie de faire quelque chose de propre. Je suis un peu le porte-parole de toute l'organisation. Il y a énormément de monde derrière. Plus de 1000 personnes, vous le savez. Donc, quand ces gens-là font un travail considérable, on a envie de faire quelque chose de très propre pour eux. Donc, on se concentre surtout là-dessus. Et puis surtout pour que les joueurs soient mis en valeur. Parce que mon rôle, c'est aussi de mettre les joueurs en valeur. Donc, après, il y a une signature vocale, comme il y a des signatures visuelles, comme il y a des signatures de partout, hein, dans les grands événements. Oui, j'en suis, c'est vrai que j'en suis fier, c'est un vrai plaisir. Mais moi, je viens de l'athlétisme, je pensais rester un peu dans l'athlétisme, je pensais pas en faire un métier d'ailleurs. J'ai commencé à être présentateur, speaker sur les meetings d'athlétisme auxquels je participais pas.
Sport que tu as pratiqué.
Sport que j'ai pratiqué, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Mais j'ai plusieurs métiers, je pensais vraiment pas faire ce métier-là. Puis au fur et à mesure que je commençais à être demandé dans pas mal de sports, exactement. Donc voilà. Donc j'en ai fait un métier.
Il a gagné le 100 mètres de la voix en athlétisme, qui est très très rare.
C'est ça.
Alors pour se projeter, bon, on est plus.
Il y a toujours 2-2, hein.
Tout va bien.
Ouais. Et ça va pas bouger tout de suite. Hein. On croit que ce match
peut durer. Effectivement. Oui.
Tu as vu un petit peu tout le monde, présenté un petit peu tout le monde. Qui t'a étonné?
Toi, ce qui est aussi intéressant avec Marc, c'est qu'il les voit un petit peu avant.
On les voit avant. Alors, tu as raison, cette particularité d'être là-bas, moi ce que j'aime c'est ça, c'est être au contact. Je suis un privilégié, hein. Je suis vraiment au contact de ce que j'aime, c'est le sport. Et on dit souvent, le sport, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de physique et tout ça, mais il y a une partie mentale qui est importante. Et dans cette partie mentale, vous en avez certainement parlé, il y a effectivement l'entrée, la façon dont les joueurs se concentre. Un joueur qui vient pour la première fois sur le central, vous avez vu Gladiator, c'est quelqu'un qui rentre dans l'arène pour la première fois. Donc il y a un peu d'appréhension.
Alors justement, c'était
un peu de peur.
Ce qu'on disait tout à l'heure pour
Echeverry.
Pour Echeverry, est-ce que t'as vu s'il était.
Bien sûr.
S'il tremblait un peu.
Il est rentré avec une sur le visage, c'est ça qui est fort, de la concentration, mais aussi j'ai lu un certain plaisir à être là.
Ah,
donc il l'avait. Alors que certains joueurs sont peut-être plus tendus que lui, plutôt les joueuses d'ailleurs, ça affecte beaucoup certaines joueuses qui sont assez tendues à leur entrée sur le court. Pas celles qui ont l'habitude d'y rentrer, qui ont une concentration assez marquée, mais celles et ceux qui viennent pour la première fois, on sent quelque chose de particulier. Et lui, j'ai senti un vrai plaisir à être là. Je pense que voilà, il avait envie d'être sur ce court.
Ben, c'est sûr que pour un Argentin, se retrouver sur le court central de Roland-Garros, c'est toujours un moment particulier. On ne peut pas, Marc, dissocier ton histoire ici à Roland-Garros de celle de Raphaël Nadal, parce que pour Raphaël Nadal, finalement, tu fais aussi partie de son environnement. Tu as été là pour toutes ses victoires et mine de rien, vous avez développé une sorte de relation. Et je crois que si, par exemple, par hasard, tu avais été malade ou etc., et s'il y avait eu un Roland-Garros où tu n'avais pas été là alors qu'il jouait, ça aurait peut-être été quelque chose d'un petit peu particulier pour lui, même si on sait que quand il y a des obstacles, il les surmonte.
Mais il était fort.
C'est quand même formidable d'avoir été le contemporain et toi, le speaker de cette histoire incroyable d'un joueur de tennis qui gagne 14 fois le même tournoi.
Le rapport que j'ai avec Nadal, il date pas de 2004, où il est venu jouer pour la première fois le tournoi, comme moi, pour la première fois. Non, il n'a pas joué en 2004. Il joue 2005. Il joue 2005, c'est vrai.
En 2004, il était blessé.
Il date de 2003, en fait, mon rapport avec Nadal. Et c'est pas, bien sûr, à Roland-Garros, qu'il n'a pas joué non plus, 2003, puisqu'il a aussi blessé. Les deux premières fois où il aurait pu les jouer, 2003-2004. Non, c'est à Monaco. Il a une invitation pour jouer Monaco. Et il est tout jeune, il a 17 ans. Il gagne son premier tour. Et je rentre sur le court, comme je le fais d'habitude pour tous les joueurs, sur tous les tournois, pour aller l'interviewer. Il me voit arriver avec le micro, et il me regarde, il fait « Ah, you know able English, you know able English. » Ok, je comprends, d'accord, bon, je vais t'aider. Donc on va le faire avec mon espagnol d'école, mais il va falloir que tu m'aides aussi. Et je lui dis en espagnol, il faut que tu m'aides, parce que j'ai pas pratiqué énormément, donc voilà, j'ai... plein de souvenirs justement de l'école.
Mais
voilà, mais un peu plus lié que ça quand même pour qu'il comprenne que je parle quand même et que je le comprends surtout. Et donc je lui demande simplement de parler lentement. Donc il me dit ah ben très bien, parfait. Et pendant 5 ans, l'interview se passe bien. Deux premières questions, il répond, il fait attention, il est concentré, il fait attention. Et la troisième, il se sent bien. Et donc, on a l'impression que c'est fluide. Et tout d'un coup, hop, ça y est. Et là, il accélère un peu. Je ne comprends pas la fin de son interview. Bon, il retourne au vestiaire. Et à Monaco, on a la chance de pouvoir être à côté d'eux. Ils sont assez relax. Donc, je vais le voir au vestiaire. Et je lui dis, c'était super, c'était très bien, merci beaucoup. Et puis, il me dit, non, merci à toi de m'avoir aidé en espagnol. Et je lui dis, mais on le fera à chaque fois. Et je pense qu'on va en faire plusieurs à l'avenir. Je me doutais qu'il allait en gagner quelques-uns des matchs. Mais pas autant que ça. Je pensais pas à 14 ici. Et donc, il me dit, je lui dis, la prochaine fois, il faudra quand même que tu vraiment fasses attention. Parce que la fin, je l'ai pas eu. Ah, il me dit, oui. Puis, en plus de ça, j'ai mis des mots un peu Mallorcan pour mes amis, donc voilà, donc bien,
merci.
Donc
merci.
C'est ça, donc je dis essaye de voilà. Et donc pendant 5-6 ans, ben on a fait nos interviews en espagnol, y compris ici où je faisais aussi les premières, et donc ça s'est très très bien passé. Et donc on a développé cette relation. Il a jamais changé, il vient toujours dire bonjour. Rafa, c'est le joueur qui quand il quittait Roland, il allait dire au revoir quasiment à tout le monde, toutes les personnes qui étaient autour de lui dans le vestiaire et être dans l'organisation. Il n'a pas changé d'un iota depuis qu'il a 17 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'adorent, l'aiment. Et certains, à l'extérieur, ne l'ont pas non plus toujours compris. Mais c'est un vrai champion et un bel être humain.
Alors, j'avais une question pour toi, parce qu'on parle de voix. Et c'est vrai que la voix significative, on te repère, on t'entend. Mais il y a Kader Hanouni qui est arbitre. Qui a lui aussi une sacrée voix, et c'est ta chance qu'il fasse arbitre pour le coup, parce qu'il pourrait être en concurrence.
Kader m'a
dit piquer sa place.
Non, mais Kader a une très belle voix. Exactement. Kader, c'est pas. 40-15. Ouais.
C'est parce que c'est limité. Ce que j'adore, c'est quand il dit reprise.
Ouais, c'est ça. Non, mais il a cette voix grave qui fait un bien fou, justement, dans les stades, parce que ça percute le micro, et c'est parfait d'avoir ce genre de voix. Ça aide. Et Kader qui disait qu'il avait demandé s'il pouvait pas travailler de temps en temps pour faire des voix au cinéma. Ouais. Il a raison d'essayer.
La question, c'était de savoir, parce que Alexander Zverev a joué déjà 1, 2, 3, c'est la quatrième fois sur le central. Et justement, comment il est, Alexander Zverev, sachant qu'il vit un truc quand même extrêmement particulier de revenir ici à Roland-Garros après son accident. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelqu'un qui est dans une forme de renaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore un petit peu effrayé par ce qui lui est arrivé? Comment tu le sens humainement, toi qui le vois dans le couloir, etc.? Est-ce qu'il a changé?
Non, alors il est effectivement très concentré. Moi, j'ai eu la chance de le voir, j'ai eu la chance de faire sa reprise au mois de décembre, reprise en compétition. Il y avait un tournoi exhibition en Arabie Saoudite, et on y était avec pas mal de joueurs, dont Dominic Thiem, Medvedev, Fritz, ouais. Voilà, et Rublev et Sacha. Et donc Sacha avait de l'appréhension avant de rentrer, bien entendu. Il s'était superbement préparé. C'était sur dur, hein, c'était pas sur terre battue. Donc il s'était superbement préparé. Il était content de rejouer. Il avait du plaisir, mais il avait pas le rythme. Bon, voilà. Donc il a reprogressé. Et quand il est arrivé ici, il a joué son premier match. Il a joué sur le Langland. Et ensuite, Il le gagne parce qu'il est 27e mondial. Il est pas dans le top 10. Hein, il est plus dans le top 10. Donc ils l'ont mis sur un autre cours et donc il gagne son premier tour et le deuxième il le joue ici.
Absolument.
Et là quand il rentre à ce moment-là, oui, il y a une petite appréhension, on le sent. Motivation, appréhension et Sacha, je le connais depuis qu'il a 12 ans parce qu'il venait à Metz avec son frère qui a 10 ans de plus que lui, Micha. Et Micha tapait avec lui et donc les autres joueurs le voyaient taper. Ils disaient mais il joue bien ton frère à 12 ans. Est-ce qu'on peut taper avec lui? Donc il a tapé très rapidement, très tôt avec d'autres joueurs. Donc on l'a toujours eu dans l'environnement de la famille qui est charmante, qui sont gentils comme tout et on pouvait le voir évoluer. Alors c'était le même, mais vous imaginez un mètre de moins quoi. Donc il a vraiment grandi avec le tennis et avec les professionnels. Et donc c'est quelqu'un qui adore ça, qui se prépare vraiment totalement, qui vit tennis. Donc il est rentré avec, oui, un œil un peu nerveux, on va dire. Voilà, c'est ça. L'œil nerveux qui regardait un peu partout, quoi.
Nos auditeurs visualisent les choses. En plus, quand le joueur rentre sur le court Philippe Chatrier, c'était à 2-3 mètres. L'entrée des joueurs est à 2-3 mètres de l'endroit où il s'est fait sa blessure.
Exactement.
Juste là.
Tu as raison, c'est 3 mètres.
En conférence de presse, il en a parlé et il a dit oui, j'y pensais, j'ai regardé l'endroit. Voilà. Parce que c'était vraiment terrifiant, hein, ce qui lui est arrivé et comment imaginer qu'un an plus tard il soit sur ce court en quart de finale et peut-être.
Alors il a conjuré, je pense, le sort et pour moi depuis la semaine dernière, vu comment il a joué, notamment toutes les sessions de nuit parce qu'il en a joué en nocturne, hein, ouais, beaucoup. Il est prêt vraiment pour aller au bout. Je serais pas surpris de le voir en finale. Franchement, même s'il y a encore du chemin, hein, il y a encore
ce
match-là et du monde, Rude, donc ouais, face à lui, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, ça sera difficile. Mais vraiment, il s'est préparé pour être, très très
incroyable.
Fort. Ouais. Déjà qu'il retourne en demi-finale, je pense que ça va être quelque chose de fort pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il est en train de reboucler cette boucle et qu'il repart vraiment ici.
Non mais très objectivement, déjà quand on voit les difficultés que les joueurs blessés ont à revenir, on peut prendre le cas par exemple de Dominic Thiem, et que lui, il a retrouvé un niveau vraiment sensationnel en aussi peu de semaines, c'est absolument.
Je vais vous donner une anecdote. Elle s'est passée après le dernier match. Donc, il gagne contre Dimitrov en 3-7, exactement. Et on est dans la brèche. On dit au revoir. Donc, les gens, il fait la presse. Il va partir pour aller faire au sport. Donc, il part dans un couloir. Il s'éloigne. En s'éloignant, il se retourne et il demande à Sergueï Bubka, qui est le fils de Sergueï Bubka, le perchiste. Son fils est ancien joueur
pro.
Tout à fait. Il était dans les 200 premiers. Et il est son agent maintenant. C'est lui qui s'occupe un peu de lui. Et il lui demande, demande si on peut taper. Ça, je lui dis.